Mais tu peux pas être Asperger, sont que des hommes. Puis tu corresponds pas du tout aux critères.
Lui, il est clairement hyperactif, c'est un TDAH, c'est sûr. Mais bon, elle, c'est une rêveuse, elle est juste dans la lune, rien à voir.
Beaucoup de femmes sont hypersensibles. Les hommes, je crois pas, c'est pas dans leur nature.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de genre. Alors non, pas celui qu'on peut se donner pour avoir l'air stylé, mais plutôt parler de la différence entre les hommes et les femmes atypiques et tous les clichés liés. Est-ce que cette différence est-elle bien due à des atypismes différents, qu'on soit homme ou femme, ou bien est-ce que tout ça se joue ailleurs? Faisons le point entre ce qui pourrait relever de la biologie ou de la société. Alors la question du genre a été pas mal explorée en sciences sociales, particulièrement en sciences de l'éducation chez les enfants, mais très peu en psychologie et encore moins en psychologie cognitive, et la quantité d'études en neuropsychologie sur le sujet a l'air de flirter avec le zéro absolu. On va pas y aller par quatre chemins. D'un point de vue études scientifiques, en général, elles ne font que constater qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes atypiques, mais pas réellement les expliquer. Ce qui est plutôt honnête, parce que démontrer une différence, c'est pas pour autant en expliquer la source. Ce qu'on peut noter, c'est que la plupart des différences qu'on peut identifier entre les femmes et les hommes atypiques ne semblent pas du tout innées, mais intimement liées à l'éducation. Intéressant, non ? Autrement dit, en termes d'innés, de nature même des atypismes, il ne semble pas avoir de différence entre les hommes et les femmes. En revanche, à cause de l'éducation, de la société, l'expression de ces différences chez les femmes, chez les hommes, va varier. Et c'est comme ça qu'on va globalement tirer des grands traits pour décrire ces populations. À cause de normes et attentes sociales différenciées selon le genre, une fille ou une femme n'exprimera et n'exploitera pas forcément de la même façon son atypisme qu'un garçon ou qu'un homme. Ceci étant, toutes les femmes atypiques ou tous les hommes atypiques ne vont pas exprimer, évidemment, ni exploiter leur atypisme de la même façon. Il existe plusieurs études sur ce sujet, alors on peut citer parmi d'autres une étude de 2016 de Rutherford et Hall qui montre qu'en ce qui concerne l'autisme, à l'âge adulte, le sexe ratio évolue jusqu'à 2 femmes pour un homme. Cela suggère que la condition autistique n'est pas repérée chez les filles et est décelée à l'âge adulte lors de diagnostics tardifs. C'est faux de dire que les hommes et les femmes sont qualitativement différents sur le plan cognitif, comme on peut parfois le lire dans certains livres grand public ou entendre dans certains médias. Il en est de même au plan cérébral. Les cerveaux masculins et féminins ne sont pas qualitativement différents, même si de nombreuses petites différences existent. Globalement, quel que soit l'atypisme, les femmes sont moins testées que les hommes. Beaucoup se révèlent tardivement, notamment souvent en faisant tester leurs propres enfants et en se reconnaissant dans leurs traits, mettant enfin ainsi un terme sur ce qui les faisait se sentir différentes, mais qui n'avait jamais été verbalisé. Parlons tout d'abord des hauts potentiels intellectuels. Alors quand on pense adulte surdoué, on a souvent l'image d'un petit génie à lunettes. Or pourtant, statistiquement, il y a autant d'hommes que de femmes, et surtout autant de profils différents. On va être très clair, pour ce qui est du quotient intellectuel, les femmes et les hommes passent le même test et sont évalués sans distinction de sexe. On note toutefois des particularités, mais qui sont dues au regard de la société. Il existerait des différences entre les hommes et les femmes HPI sur le plan des hyper-excitabilités, telles qu'elles ont été définies par Dabrowski. Les femmes présenteraient une hyper-excitabilité sensorielle et émotionnelle plus élevée comparativement aux hommes surdoués. Et ces derniers présenteraient une hyper-excitabilité intellectuelle et psychomotrice plus importante que les femmes. Cela dit, cette étude précise que les résultats sont cohérents avec les résultats d'études sur la socialisation genrée, qui ont montré qu'au final, on socialise différemment les filles et les garçons. Donc, les différences entre hommes et femmes HPI semblent plus être la conséquence de procédés de socialisation différenciés selon les genres que celles du HPI en lui-même. À noter, une différence notable et qu'on va retrouver sur tous les profils, c'est qu'on identifie bien moins les filles et les femmes HPI qu'on identifie les garçons et les hommes. Jean-Charles Terrassier notamment fait état d'un ratio dans ses consultations de 3 à 4 garçons pour seulement une fille. Alors qu'on sait que le HPI concerne de façon strictement égale garçons et les filles. Le biais qui va faire la différence ici se situe au niveau de l'identification. Concernant les personnes avec un autisme Asperger, là, le ratio est encore plus impressionnant. Il est porté, selon les études, à une femme pour 5, voire 9 hommes environ. Ce biais de genre est lié à la manière dont les études autour de l'autisme se sont construites. Les premiers chercheurs à avoir été reconnus pour leur travail sur l'autisme sont les psychiatres Hans Asperger et Léo Kanner. Les différentes études de cas étaient principalement effectuées sur des sujets masculins. Depuis, la plupart des études incluant des personnes autistes portent essentiellement sur des sujets masculins. Et donc tout ce qui est décrit dans la littérature est principalement issu d'observations d'hommes ou de garçons avec autisme. C'est une problématique clé. Ces dernières années, plusieurs études ont émergé et la théorie d'un phénotype autistique propre aux particularités féminines commence à recueillir de plus en plus de preuves étayées par différentes recherches. Certaines études démontrent que les femmes reçoivent des diagnostics plus tardivement que les hommes. Des chercheurs ont également débattu sur l'éventualité d'un diagnostic sexiste qui aurait engendré des sous-diagnostics chez les femmes. D'autres ont également émis l'hypothèse d'un biais de genre dans les déclarations parentales en raison des attentes sociales et de la socialisation des rôles de genre dans la société. Certains auteurs, cliniciens et spécialistes comme Tony Atwood, Judith Gould, Laura Wing ou encore Christopher Gilberg ont émis l'hypothèse que l'autisme chez les femmes pourrait être sous-diagnostiqué en raison de meilleures adaptations spontanées, notamment au niveau du mimétisme social. Elles se tourneraient aussi vers des passions plus communes que celles des hommes. Dans son livre « Asperger's and Girls », Tony Atwood écrit « Ces explications provisoires de l'apparente sous-représentation des filles ayant le syndrome d'Asperger n'ont pas encore été examinées par des recherches objectives. » Par exemple, des études sur le genre de l'autisme reflètent en tendance quelques différences, notamment des difficultés sociales souvent visibles pour les hommes, alors qu'elles sont parfois masquées pour les femmes. Une expression qu'on va dire plus classique du trouble du spectre de l'autisme pour les hommes, alors qu'elle est plus subtile chez les femmes, ainsi que d'autres spécificités qu'on va retrouver justement sur ces différences de genre. Là encore, ne pas tenir compte des spécificités, ça peut amener à un sous-diagnostic ou à de mauvais diagnostics. Et plusieurs études ont montré que les hommes et les femmes qui sont accompagnés de façon retardée sont plus sujets à la dépression et à l'anxiété. Intéressons-nous maintenant aux troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là encore, la majorité des revues et des recherches s'est concentrée sur la population masculine qui est considérée comme composant 80% des cas. À l'heure actuelle, on identifie de plus en plus de cas dans la population féminine, en particulier depuis que la catégorie non-hyperactive a été reconnue. À noter tout de même qu'un petit nombre d'études s'interrogent sur le rôle biologique, notamment le taux d'œstrogène dans le cerveau et ses fluctuations, mais la plupart des différences relèvent, là encore, des attentes sociétales. Les femmes suspectant leur TDAH sont souvent soumises à d'importantes difficultés pour obtenir un diagnostic correct, tout simplement parce que les professionnels sont habitués au diagnostic du type masculin et peuvent être enclins à minimiser ou à évacuer certains de leurs symptômes et faire ainsi un diagnostic incorrect. Pour tenter de résumer, parmi les enfants avec un TDAH, les filles vont avoir une augmentation des problèmes de comportement, d'anxiété et de compulsion similaires aux garçons. Mais comme en général, elles ont moins de problèmes de comportement qui vont déranger les classes, les familles, elles sont moins facilement détectées. D'autant plus qu'on entend souvent parler du trouble d'hyperactivité. Les premières recherches se sont concentrées sur de jeunes garçons qui étaient turbulents à l'école, et les premières statistiques laissaient penser que les filles étaient moins touchées que les garçons. Des études plus récentes se sont intéressées au problème du déficit d'attention, et les médecins ont découvert que les filles et les femmes étaient plus souvent touchées par ce déficit. Ils ont en outre découvert que les filles, lorsqu'elles sont hyperactives, ne manifestent pas les mêmes symptômes que les garçons. Les garçons hyperactifs reçoivent généralement l'aide dont ils ont besoin parce que leur comportement va attirer l'attention de l'entourage sur leurs problèmes, tandis que les filles ont souvent un comportement meilleur et n'attirent pas l'attention de la même manière. On pense qu'elles ont juste un problème de caractère et non un problème d'attention. Ce qui fait que ces femmes sont potentiellement doublement coincées à cause des attentes de la société quant à leur rôle de femme. Pour une femme qui a un TDA ou TDAH, le défi le plus pénible, c'est probablement de se sentir submergée par son propre sentiment d'impuissance alors qu'elle tente de remplir les rôles qu'elle se sent obligée d'assumer. Parlons maintenant de l'hypersensibilité. Alors là, vous allez voir, la situation est totalement inversée. Pas d'études à date concrètes sur ce sujet, mais il suffit de lire les articles ou les témoignages, quasi exclusivement des femmes. Là encore, heureusement, les choses changent, mais on part de loin. Pour les hommes, la règle de base, c'est de savoir tellement bien gérer ses émotions qu'on a l'air de ne rien ressentir. Et ça, il n'y a rien de plus compliqué pour un hypersensible. On leur apprend dès le plus jeune âge que leur valeur va découler de la force physique et émotionnelle. Comme l'explique le docteur Aaron dans son livre « The Highly Sensitive Person », les films, les publicités, même la façon dont l'espace public est conçu, toute la société nous montre que les hommes devraient être aussi musclés que Terminator, aussi stoïques que Clint Eastwood et aussi sociables que Goldie Hawn. Les lumières vives, le bruit et une bonne bande d'amis qui rigolent dans un bar devraient être autant de stimuli agréables. Et oui, comme quoi le genre... Tout dépend de celui qu'on se donne. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.